Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
Vendredi 3 janvier, 5h du matin à Bagdad, le ciel s'enflamme. Une frappe aérienne américaine vient de toucher un convoi automobile en plein aéroport de la capitale irakienne. À son bord, le général iranien Qassem Soleimani. Une frappe de drone ordonnée par le président américain Donald Trump. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et pour ce premier épisode de l'année 2020, je vais décortiquer avec mes invités les faits qui ont conduit les États-Unis et l'Iran dans une nouvelle phase tragique de relations tendues depuis 40 ans.
Les forces américaines tentent de déloger ces milliers de manifestants, parfois à coups de tir de gaz lacrymogène. Ces protestataires sont entrés dans l'enceinte du bâtiment. Ils dénoncent les récents raids américains qui ont visé une faction armée irakienne pro-iranienne.
Ils sont des milliers, ont ce 31 décembre 2019, à se presser devant l'ambassade des États-Unis en Irak. Une image qui rappelle la prise d'assaut de l'ambassade américaine de Téhéran en novembre 1979. Par des étudiants iraniens. Pour les Américains, derrière cette manifestation de paramilitaires irakiens à Bagdad, se cache l'ombre de l'Iran et de l'un de ses principaux dignitaires, le général Soleimani. Qui était cet homme et pourquoi les États-Unis ont-ils choisi de l'éliminer ? C'est la question que j'ai posée à Jacques-Hubert Rodier, spécialiste des relations internationales aux Échos.
Alors, c'est un personnage d'une grande ampleur en Iran et dans le monde arabe, dans ce qu'on a appelé l'arc chiite. Il est né en 1957 dans une famille d'agriculteurs. C'est finalement la guerre Irak-Iran de 1980 qui l'a propulsé dans l'armée. Il a gravi les échelons. C'est quelqu'un, et c'est intéressant à savoir, qui est extrêmement maniéré, qui avait ses manières iraniennes, un personnage assez agréable comme ça, parlant peu, assez taiseux, et qui avait qu'un diplôme de collégien très bas. Et puis, en 1998, il a été nommé à la tête de ce qu'on appelait les brigades Al-Quds. Les brigades Al-Quds, c'est à la fois la CIA en Iran et les forces spéciales, puisqu'ils lancent des opérations. Ces brigades Al-Quds font partie du corps des gardiens de la Révolution. Donc, lui a dirigé ces brigades. Et puis, en maniant à la fois l'arme, mais également un peu la lutte d'influence, il a étendu l'influence de l'Iran dans la région et il a fait la grande majorité des combats qui ont permis à Bachar el-Assad de se maintenir au pouvoir. Il disait même de l'armée syrienne de Bachar, mais c'est pas une armée ça. Et avec ses conseillers et les brigades Al-Quds, et surtout en encadrant le Hezbollah libanais, il est parvenu jusqu'à 2015, à maintenir le Bachar el-Assad au pouvoir, jusqu'à l'arrivée des Russes, au moment où les Américains ont hésité. Et puis, on le retrouve en Irak, très rapidement, où là, il coordonne, disons, les actions des milices irakiennes chiites pro-iraniennes, avec, évidemment, les conseillers militaires des brigades Al-Quds. On le retrouve au Liban, parce que le Hezbollah est devenu la seule armée du monde arabe. Je mets, évidemment, l'Iran de côté. On le retrouve un peu partout et sa réputation est devenue gigantesque. En Iran, c'est un héros. Je veux dire, il y avait des grandes affiches. Alors, ce qui est intéressant chez le major général Qassem Soleimani, c'est qu'il avait cette relation très particulière avec le guide suprême de la révolution, donc le successeur de Khomeini, avec Khamenei. Et Khamenei, en fait, l'instrumentalisait. parce que grâce à cette popularité, il montrait la puissance de l'Iran à l'intérieur.
Donc, il représente d'une certaine façon l'aile conservatrice hein, du régime iranien, sa capacité aussi à porter l'influence de l'Iran à l'étranger. Qu'est-ce qu'il faisait en Irak?
Alors, en Irak, il coordonnait justement ce combat, ces combats entre les milices irakiennes pro-Iran, et évidemment les conseillers, et apparemment, il était derrière cette répression qui s'abattait sur les manifestants pro-démocratiques de l'Irak d'aujourd'hui. Il ne faut pas non plus oublier que les Américains, quand ils ont envahi l'Irak en mars 2003, ils ont chassé finalement du pouvoir la minorité sunnite et que dans le gouvernement iranien, non seulement il y a une force militaire de milices qui sont importantes, qui ont fait des combats d'ailleurs contre l'État islamique qui sont des sunnites, mais dans le gouvernement, il y a une présence chiite extrêmement importante, donc pro-iranienne. Ça ne veut pas dire que les chiites irakiens soient totalement inféodés. On l'a vu ce matin d'ailleurs avec l'ayatollah Sistani qui a dit « réagissons quand même calmement », mais il était là pour coordonner les combats, comme il l'a fait au Yémen, comme il l'a fait en Syrie, avec un très grand succès, ce qui lui vaut, moi je le qualifie, les gens disent « ouais, c'est un James Bond ». Non, c'est plutôt un Bonaparte, parce que c'est un grand, grand stratège militaire. C'est, sans avoir fait des études, c'est la différence peut-être avec un Bonaparte, mais il n'a pas fait d'études militaires, mais du terrain, il avait une stratégie derrière. Donc l'Irak est très important dans cet axe iranien.
L'Iran et les États-Unis, Jacques, sont des relations complexes depuis maintenant 40 ans ?
Absolument. C'est un love et hate entre les deux pays. Quand la révolution iranienne a commencé, il y a eu cette prise d'otage à l'ambassade américaine de ressortissants américains. C'était une humiliation pour les États-Unis. D'ailleurs, Jimmy Carter a été finalement battu aux élections contre Ronald Reagan. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est à ce moment-là où les Iraniens ont libéré les otages. C'est juste le jour de la prise de pouvoir de Ronald Reagan. Et cette relation est très difficile. L'arrivée de Trump au pouvoir, et je saute un peu cette période d'assouplissement des relations, de mieux-être entre les deux pays avec Barack Obama, il arrive au pouvoir et il commence à dénoncer cet accord de 2015 qui avait été obtenu
sur le nucléaire.
Sur le nucléaire. Et donc, cette relation se tend au maximum. L'Iran n'est pas une grande puissance militaire, mais a une très grande capacité de nuisance. Donc, il y a dans le Golfe, au Moyen-Orient, leur ennemi, c'est évidemment l'Arabie Saoudite, et qui l'Arabie Saoudite sunnite, et immobilise avec un côté anti-Israël. Donc, les deux grands alliés des États-Unis dans la région. Il y a une relation complexe au point où quand Donald Trump décide après donc 2018 après avoir dénoncé cet accord sur le nucléaire, le JCPOA de 2015 signé avec la France, la Grande-Bretagne, la Russie, la Chine et l'Iran, que l'économie iranienne, puisqu'il double les sanctions, il les rend très dures puisque nous-mêmes français on voulait reprendre des affaires, on peut pas parce qu'on utilise le dollar. Donc cette tension est au maximum et crée la récession actuelle en Iran est de l'ordre de 9,5%, je crois, et les sanctions coûtent annuellement, je crois, plus de 200 milliards de dollars puisqu'ils ne peuvent pas exporter leur pétrole, sauf, et là, c'est l'atout, vers la Chine. Et la Chine regarde ça avec intérêt. C'est peut-être une chose qui aura. Ils ont également entre guillemets, une relation avec la Russie, mais ça risque de compliquer encore plus la relation entre l'Iran et les États-Unis, car la Chine observe et ils achètent du pétrole et ils ont une relation la plus normale qu'ils puissent être dans cette situation tendue du Moyen-Orient.
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, s'est entretenu avec ses homologues chinois, britanniques et allemands et il leur a rappelé qu'il souhaitait une désescalade. Mais en éliminant ainsi l'un des hommes forts de l'Iran, Donald Trump a-t-il pris conscience des conséquences de son acte et pourquoi a-t-il décidé de passer à l'acte? J'ai appelé Antoine Basbous au téléphone. Il est politologue, fondateur de l'Observatoire des pays arabes, pour essayer de comprendre ce qui motivait ce regain de tension entre l'Iran et les États-Unis.
Ça fait une quarantaine d'années où les États-Unis et l'Iran sont en conflit larvé. Depuis l'été dernier, les Iraniens ont abattu un drone extrêmement sophistiqué américain. Ça n'a pas eu de conséquences. La semaine dernière, il y a eu un sous-contractant américain qui a été tué dans une base américaine en Irak par les bombardements d'une milice aux ordres de Téhéran. Et il y a eu une réplique majeure qui a suscité l'encerclement de l'ambassade américaine à Bagdad, l'une des plus grandes ambassades au monde, dont la superficie équivaut à celle du Vatican et qui avait coûté $1 milliard. Donc, le président américain a réagi vivement. Il n'a pas laissé l'opportunité aux assaillants de pénétrer dans l'ambassade. Il a appelé le premier ministre irakien et l'a menacé. Et du coup, les manifestants se sont retirés. À partir de là, le théâtre irakien était devenu le champ de bataille de l'Iran et des États-Unis. Et Soleimani, c'est l'homme qui a propagé, qui a créé les réseaux chiites, du croissant chiite de la Caspienne jusqu'à la Méditerranée. Il y a ressuscité et installé, structuré des communautés chiites pour en faire un peu comme des services de renseignement au profit de l'Iran. Donc, Soleimani, c'est l'architecte de l'hégémonie régionale de l'Iran sur le Moyen-Orient et dans le Golfe. Donc, sa disparition est quelque chose de très important. Il avait combattu à travers les milices chiites qu'il a structurées en Irak et au Liban, les États-Unis. Il y a eu plusieurs dizaines de morts de soldats américains qui sont imputés aux milices qu'il a mises en place et à qui il avait donné ordre de tirer sur les Américains quand ils occupaient l'Irak dans les années 2000. Et donc, c'est un homme majeur, c'est un architecte à la fois du renseignement, de la projection des Pasdaran. C'est le bras armé de l'Iran à l'échelle régionale. C'est un interlocuteur des puissants de ce monde. C'est lui qui est allé voir Vladimir Poutine en août 2015 à Moscou et l'avait convaincu d'envoyer l'armée de l'air russe en lui disant « Les fantassins, ce sont les brigades chiites internationalistes que j'ai mises en place et vous, vous n'allez pas avoir un Afghanistan en Syrie puisque vous n'allez intervenir que dans les airs et nous, nous serons les fantassins. » Donc c'est lui qui a sauver le soldat Assad et c'est un homme capital dans la structure du régime iranien.
Est-ce qu'on peut parler d'un acte de guerre de la part des États-Unis ?
Nous sommes aujourd'hui dans une succession de guerres asymétriques et qui ne portent pas sur le territoire iranien ou américain. À vrai dire, c'est une succession de manifestations guerrières que se livrent les uns et les autres sur des territoires extranationaux. Jusque-là, l'Amérique n'a pas riposté à la destruction de son drone contre l'Iran et les Iraniens n'ont pas encore porté le fer sur le territoire américain, bien qu'ils aient chargé les milices qu'ils commandent en Irak et ailleurs de tirer sur des bases américaines, mais installées en Irak.
Il est rare quand même que les autorités d'un État revendiquent aussi clairement l'assassinat d'un dignitaire étranger.
N'oublions pas que les Iraniens ont défié les États-Unis pour faire diversion puisqu'ils sont contestés surtout par la base sociale qui était la leur, chiite, en Irak. Et donc, de ce fait, n'oublions pas que le président Trump n'a pas envie de subir le sort de Jimmy Carter ou de Hillary Clinton qui ont été battus aux élections parce qu'ils avaient cédé. L'un, il avait échoué à faire libérer les otages en Iran en 1980, et Clinton, qui était secrétaire d'État, qui n'avait pas réagi suffisamment bien pour sauver l'ambassadeur américain en Libye qui a été assassiné à l'ambassade de Benghazi. Donc Trump, ne voulant pas récidiver avec ce genre de précédent, a voulu montrer en année électorale qu'il est ferme et qu'il ne ressemblera pas à ces présidents démocrates qui fléchissent devant la difficulté. Donc il a eu une opportunité de faire éliminer le général Soleimani. Eh bien, il n'a pas hésité et il l'a revendiqué. C'est le style Trump, c'est une allée électorale et Trump veut montrer qu'il est fort et qu'il est capable de se faire respecter.
Oui, Donald Trump d'ailleurs a tweeté peu après l'attaque en publiant une image du drapeau américain sans aucun commentaire. C'est quand même un peu court là comme justification de son action.
C'est une affaire de signaux et d'images. Les justifications sont venues après et la confirmation est venue de la part des plus hautes autorités de l'État américain pour expliquer ce que signifiait ce tweet de Trump.
Et maintenant, qu'est-ce qui peut se passer?
Je crois que les Iraniens ne peuvent pas ne rien faire. Mais en même temps, ils sont dans des situations tellement difficiles qu'ils doivent mesurer ce qu'ils peuvent faire sans susciter la foudre du président américain. Donc, ils ont trois points de force. D'abord, les communautés chiites structurées sur le modèle de services de renseignement à l'échelle de la région. Ils peuvent leur confier des missions pour attaquer les Américains. Deuxièmement, ils ont une arme importante qu'ils maîtrisent bien, ce sont les drones armés ou les drones suicides. Ils ont également une troisième arme, le vecteur des missiles. Ils maîtrisent bien cette technologie et comme ils ont confié des missiles à ces milices chiites à l'échelle de la région, ils peuvent ordonner des frappes de missiles ou de drones sur les bases américaines, sur les intérêts américains. Pourquoi pas ne pas tenter d'attaquer une ambassade, d'éliminer un ambassadeur. Bref, l'Iran, s'il ne fait rien, toute son aura disparaîtra et sa clientèle, sa base sociale comprendra que l'Iran s'est totalement affaibli et s'est affaissé et elle se désolidarisera de Wali al-Faqih, c'est-à-dire du guide iranien. Donc, en même temps, les Iraniens ne peuvent pas agir de façon aveugle et attirer la foudre américaine. Donc, il va falloir qu'ils testent, qu'ils agissent sans perdre la face, mais sans provoquer de nouvelles pertes chez eux.
Alors, les États-Unis ont d'ailleurs appelé peu après l'attaque leurs ressortissants à quitter l'Irak immédiatement. Ils ont expliqué avoir pris une mesure défensive pour protéger le personnel américain à l'étranger et dissuader l'Iran de tout projet d'attaque ultérieure. Ça veut dire, Antoine Basbous, qu'une escalade est à craindre ?
Forcément, mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment la riposte va intervenir, mais je présume que les Iraniens n'ont pas le choix que celui de riposter.
Après la mort du général Soleimani, une question reste en suspens. Le Moyen-Orient va-t-il redevenir une poudrière pour les États-Unis ? Et plus largement pour les Occidentaux.
Ce qui est intervenu ce matin s'inscrit quand même dans une dynamique de fond qui est celle d'un retrait pour les Américains de cette région.
Jean-Baptiste Béga est co-auteur de Moyen-Orient et Occident au XXe siècle et ancien chargé d'études à l'Institut Montaigne.
Et à cet égard, il n'est pas nécessairement facile de comprendre comment cette intervention américaine qui a ciblé donc le général Soleimani pendant la nuit dernière s'inscrit de manière cohérente dans cette politique de long terme de retrait américain de cette région. Retrait qui continue, on a quand même de moins en moins de troupes américaines dans cette région. Elles se sont retirées du nord syrien, il y en a encore aujourd'hui en Irak, dont une partie d'ailleurs était des troupes américaines postées en Syrie et qui se sont retirées vers l'Irak. Donc cette dynamique de retrait, elle existe. Les intérêts américains aujourd'hui qui pourraient être ciblés par d'éventuelles tentatives de revanche de l'Iran sont en fait assez limités en termes humains. On a évidemment des soldats, on a l'ambassade, qui a déjà fait l'objet d'une attaque il y a quelques jours par des groupes irakiens hostiles à la présence américaine dans ce pays, notamment par des milices proches de l'Iran. On a ces éléments-là. Après, paradoxalement, là où l'Iran pourrait avoir, disons, un effet important et négatif sur les États-Unis pour se venger, c'est sur le domaine pétrolier. Et là, c'est intéressant parce que le domaine pétrolier, ça n'a rien à voir avec le fait de cibler un général des forces spéciales d'Iran de la Révolution iranien. On voit bien que la réponse la plus efficace que l'Iran pourrait apporter à cette action-là, c'est une réponse d'ordre économique, alors que l'attaque a été militaire. Donc, c'est une différence dans la nature de la réponse que pourrait apporter l'Iran.
C'est-à-dire en organisant un désordre sur les marchés pétroliers.
Oui, alors il y a plusieurs moyens que l'Iran pourrait utiliser pour organiser ce désordre. L'Iran aujourd'hui n'est plus un producteur extrêmement important sur les marchés pétroliers en raison des sanctions extraterritoriales américaines contre l'Iran. Les exportations de pétrole brut iranien ont beaucoup décliné ces derniers mois. Donc c'est pas tant de ce point de vue-là qu'il y aurait un effet sur les marchés pétroliers, mais c'est surtout sur le Détroit d'Ormuz, où l'Iran a un pouvoir de nuisance ou de défense. C'est comme ça que présente le régime iranien. C'est la défense de ses intérêts territoriaux et maritimes, mais c'est aussi un pouvoir éventuellement de nuisance sur le prix des marchés pétroliers. Donc on voit quand même qu'il y a une présence croissante des forces armées iraniennes dans ce détroit, par où transite à peu près un tiers des flux mondiaux de pétrole. Et en fait, le levier à ce niveau-là, c'est que plus il y a un risque d'insécurité pour les tankers qui croisent dans cette région, plus les assureurs de ces tankers vont demander un prix important pour accepter d'assurer ces bateaux, et donc plus le prix de transport de ce pétrole va être important. Ça, c'est vraiment le gros levier. Et puis après, il y a encore un levier supplémentaire, c'est sur la production de pétrole irakien. L'Irak reste un gros producteur pétrolier, et si l'instabilité en Irak se poursuit, s'accroît, ça pourrait éventuellement finir par avoir des conséquences sur la production de pétrole en Irak. Mais ça, c'est plus sur le moyen long terme.
Avec également des implications potentielles avec l'Arabie Saoudite, aujourd'hui qui est en conflit larvé également avec l'Iran.
Alors, sur l'Arabie Saoudite, effectivement, on a quand même une opposition de fond, qui d'ailleurs, à mon avis, relève moins d'une opposition entre chiites et sunnites, comme on peut souvent le lire, que de simplement une rivalité de puissance régionale. Maintenant, on est entré depuis quelques semaines dans une phase de relatif apaisement dans les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Il y a eu cette initiative portée par le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Zarif, qu'il a appelé l'initiative HOPE, c'est un acronyme, et qui vise en fait à discuter avec notamment les Saoudiens, mais aussi les différents pays de la région du Golfe, pour que chacun se comprenne mieux quelles sont les préoccupations sécuritaires des principaux acteurs dans cette région et essayer de constituer les bases d'une architecture de sécurité dans le détroit d'Ormuz. Donc ça, c'était une initiative relativement positive, qui a d'ailleurs été assez bien accueillie de manière informelle par les différents pays États européens. Donc là, on était plutôt sur une dynamique positive sur le court terme entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Effectivement, ce qui vient de se produire cette nuit, ça peut un peu court-circuiter cette initiative iranienne d'apaisement avec l'Arabie Saoudite. Je pense que la priorité du régime iranien aujourd'hui, ça va être quand même d'apporter une réponse très ferme à ce qui s'est passé cette nuit. Et je ne suis pas certain que l'initiative HOPE puisse survivre à la réponse que l'Iran devra apporter à la mort de M. Soleimani. Principalement parce que si une action iranienne forte viendrait à viser les intérêts américains en Irak ou ailleurs, il y a fort à parier que l'Arabie Saoudite devrait se ranger de manière assez explicite du côté américain, puisque ce sont quand même des alliés forts. Et donc, de ce point de vue-là, ça pourrait effectivement avoir des influences négatives sur la relation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite.
Après 4 jours de troubles en Iran, l'ONU dit craindre que des dizaines de personnes aient été tuées lors de manifestations contre une hausse de l'essence et le rationnement annoncé en pleine crise économique.
Est-ce que la mort de Soleimani peut modifier aussi les rapports de force au sein du régime iranien ?
Je ne suis pas certain qu'elle puisse les modifier réellement, dans la mesure où, de toute manière, on observe que depuis maintenant plusieurs mois, ce sont ce qu'on appelle souvent les conservateurs, c'est-à-dire l'aile la plus sécuritaire, la plus proche du guide suprême, qui en fait réalise les principaux choix stratégiques de la politique étrangère iranienne au Moyen-Orient. Donc de ce point de vue-là, il n'y aura pas forcément de changement. En revanche, ce qui est intéressant, ça va être de suivre les réactions des Iraniens à ce qui s'est passé. En effet, depuis maintenant plusieurs mois, on observe que les Iraniens ont une préoccupation principale en tête, c'est la condition économique de leur pays, avec, comme on l'a vu le mois dernier, une possibilité que cette grogne, cette insatisfaction vis-à-vis du climat économique de la part des Iraniens se transforme en critique contre le régime et puisse se transformer en manifestation. Et on a bien vu comment le régime avait répondu à ces manifestations le mois dernier. La question, ça va être de savoir si le régime iranien va réussir à, entre guillemets, instrumentaliser la mort de M. Soleimani pour pouvoir essayer de constituer les conditions d'une sorte d'union sacrée, y compris de la part d'Iraniens qui seraient hostiles aux aventures iraniennes dans la région, mais qui peut-être pourraient avoir un regain de patriotisme et donc une plus grande proximité avec ce qu'on appelle les durs du régime iranien aujourd'hui.
There are people in Baghdad's Tahrir Square celebrating the killing of senior Iranian commander Qasem Soleimani by US forces.
Alors depuis des mois, la situation est tendue en Irak, hein, avec des manifestations anti-gouvernementales qui se sont succédées depuis octobre 2019 contre le chômage, la corruption. Al Jazeera a diffusé notamment des scènes de liesse à Bagdad. Est-ce que cette attaque risque de fragiliser un peu plus ce pays ?
C'est une attaque qui ne peut que fragiliser ce pays, dans la mesure où ce qu'on observe aujourd'hui en Irak, c'est la conjonction d'un mouvement social profond, d'insatisfaction, surtout chez les jeunes, qui constitue quand même la grande majorité du pays, puisque l'Irak est un pays très jeune, avec une démographie très dynamique. Donc une insatisfaction importante vis-à-vis du gouvernement irakien, qui est considéré comme trop âgé, trop déconnecté, corrompu, ne pensant qu'à lui-même et pas au destin des Irakiens. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, il y a le grand jeu régional, à savoir l'influence iranienne en Irak, l'influence américaine qui est plus discrète ces derniers temps, mais qui du coup revient aujourd'hui sur le premier plan avec cette actualité. Donc effectivement, si on observe que l'Irak devient le principal théâtre d'opposition entre l'Iran et les États-Unis et que cela vient se greffer sur, en arrière-fond, un climat déjà d'insatisfaction sociale important, ça ne peut que nuire aux efforts importants et nécessaires de réinvestissement dans la reconstruction de ce pays. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, va être intéressant de voir quelle va être la réaction des États européens et de l'Union européenne, puisque la position jusqu'ici des Européens, c'est de dire qu'ils pouvaient avoir un rôle positif dans l'accompagnement de l'État irakien dans la reconstruction sur le moyen terme, c'est-à-dire dans l'aide au développement, c'est-à-dire dans l'envoi d'experts européens pour accompagner l'État irakien dans sa reconstitution. Ces démarches de long terme ne seraient pas très efficaces si s'articulait à ce qui se passe aujourd'hui, une crise beaucoup plus de court terme une escalade de court terme entre les États-Unis et l'Iran en Irak. De ce point de vue-là, la position des Européens va être intéressante à suivre et le positionnement ne va pas être facile, je pense, à élaborer.
Merci Jacques-Hubert Rodier des Échos et merci Antoine Basbous de l'Observatoire des pays arabes et Jean-Baptiste Béga, auteur avec Clotilde Houot, de Moyen-Orient et Occident au XXe siècle, aux éditions Bréal. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les applications de streaming et de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.